Alors, comment commencer une prédication qu'on a rejetée pendant des semaines? J'ai joué les Jonas avec cette prédication. Et il y a une personne dans cette assemblée qui m'a fait un clin d'œil. Bien sûr, c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est Marc. Dieu a envoyé Marc au micro la semaine dernière, qui m'a convaincu qu'il fallait que je donne cette prédication. Alors, je sais que ce que je vais dire n'est pas dans cette église, et gloire à Dieu, mais c'est quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose qui est vécu malheureusement dans des églises, et le Seigneur m'a donné cela, je ne sais pas pourquoi, et ce matin, Emmanuel, tout ce qu'il a dit dans sa présentation est inscrit dans cette prédication. C'est bizarre, hein, c'est drôle, hein, je ne comprends pas, mais bref. Mais la parole de Dieu nous parle d'amour, nous parle de nous aimer les uns les autres. Ça, on l'a entendu ce matin, on l'a entendu dimanche dernier. Marc nous l'a dit, nous l'a expliqué. Jésus l'a dit, il a même dit que ce n'était pas un nouveau commandement. Et j'ai une question. Et la prédication est basée là-dessus. Est-ce qu'on a la détermination de sortir un frère ou une sœur de la misère spirituelle, quelles que soient les choses dans lesquelles il ou elle s'est empêtré? Est-ce qu'on a le cœur? Je sais que dans cette église, il y a beaucoup de gens qui ont le cœur de ne pas laisser tomber des frères et les sœurs. La question, c'est: suis-je un véritable serviteur de Dieu? C'est ce que Emmanuel a terminé sa prédication avec ça. C'est beau de chanter, c'est beau de parler du Seigneur à son voisin, mais quand on laisse tomber son frère ou sa sœur qui est dans la mouise, parce qu'il y a deux façons, celui qui sait qui est dans le péché et celui qui est chargé de choses dont il ne sait pas se débarrasser. On pourrait lui dire, mais après tout, c'est ton problème, c'est pas le mien. Hein. Ou alors juger, on le verra. Parce que le croyant, en fin de compte, il est libre. Il est libre de la loi. J'espère que vous le savez tous. Et il possède aujourd'hui cette liberté en Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui nous a donné, qui nous donne cette liberté. Et elle est donnée par l'Esprit qui est en nous. Et on a une responsabilité. La responsabilité, c'est de se conformer à la loi de Jésus-Christ. Et je vais vous le dire maintenant, malgré que je l'explique par après, la loi de Jésus-Christ, c'est la loi de l'amour. Parce que Christ s'est donné à la croix par amour pour nous. Il ne s'est pas donné à la croix parce que son père lui a dit, « Bah écoute, tu vas mourir, tu vas faire ma volonté. » Mais non, il ne voulait pas que l'humanité soit enchevêtré dans ce péché, dans cette mort éternelle. Et il est mort pour nous. Il est mort par amour parce qu'il nous aimait. Même, vous allez dire, sans nous connaître, il nous aimait déjà. Alors, une vie remplie de ces choses de Jésus-Christ doit se manifester par des œuvres complètement désintéressées. C'est-à-dire faire des choses pas pour nous, mais pour la gloire de Dieu. Et les chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans des situations difficiles. Il y a des gens, on ne le voit pas, on ne s'en aperçoit pas. Si vous vous regardez les uns les autres, vous êtes incapable de dire que l'un a des problèmes, l'autre a des problèmes. Et pourtant. Alors si un frère ou une sœur vient vous voir et vous dit: j'ai des problèmes.
Bah ouais, bah c'est bien.
Et on s'en va? Non, c'est: viens, on va prier. On va prier ensemble. C'est quelque chose de primordial. Et en Matthieu, chapitre 20, versets 26 à 28, il est dit: il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Si on proclame Christ, faisons comme lui. On ne peut pas dire et agir comme les gens du monde. Si on dit qu'on est de Christ, on agit comme Christ, avec le même amour. Et la grandeur dans le royaume de Dieu ne vient pas à ce qu'on a du pouvoir dans une église ou de l'autorité dans une église, mais elle vient du service qu'on donne à nos frères et à nos sœurs. En fait, le but de chaque croyant n'est pas de dominer, mais de servir. Et on sert les uns les autres par amour, pas parce que l'évangile nous le demande, c'est parce que ça fait partie de nos racines. Si vous êtes en Jésus-Christ, vos racines sont quoi ? Jésus-Christ lui-même. Donc tout ce que vous allez produire, ça va être du Jésus-Christ et rien d'autre. Ainsi, ceux qui vont être les plus estimés, ce seront ceux qui auront servi, c'est-à-dire ceux qui se seront effacés pour les autres. Voyez, quitte à être piétiné, parce que des fois c'est pas évident. Des fois on reçoit des coups de bâton, même en aidant les uns les autres. On se fait insulter, mais qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Vous savez, des gens qui ont des crises d'épilepsie, si vous allez les aider, vous allez vous prendre des pains. Mais la personne les donne involontairement. Qu'est-ce que ça peut faire? L'essentiel, c'est d'aider. En fin de compte, le plus bel exemple, c'est Christ lui-même. Sa mort, en fin de compte, a été une rançon pour chacun d'entre nous. Il est né, il a servi et il est mort pour chacun d'entre nous. Il était le juste des justes. Il a été un sacrifice parfait. Et notre exemple doit être Jésus-Christ. Vous savez, lorsqu'on va être dans le ciel, on va être reconnu par Dieu parce qu'on aura l'image de Jésus-Christ sur nous. Est-ce qu'on en est conscient de cela? Et est-ce qu'on a saisi la grâce que Dieu nous a fait en Jésus-Christ? Est-ce qu'on a saisi cette grâce? Est-ce qu'on a saisi que c'est quelque chose de particulier qui est entré dans notre vie lorsque Christ est venu franchir le pas de notre cœur? On a reçu cette grâce. Alors le premier point, c'est servir le chrétien qui a péché. En Galates, chapitre 6, versets 1 à 5. Si vous avez une Bible, prenez-le. Galates, chapitre 6, versets 1 à 5. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Voyez, dans tous ces versets, tout est résumé. Et il faut faire très attention de ne pas être trop haut de plafond, si vous voyez ce que je veux dire. Pas être trop hautain, se croire supérieur aux autres, c'est un très, très gros danger. Parce que lorsqu'on est dans cette situation-là, on a une facilité, mais alors flagrante, c'est juger. On va juger la personne qui a des problèmes. On peut avoir des paroles très dures envers un frère et une sœur, parce que je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas. Moi, ça ne m'arriverait jamais. Moi, je peux vous dire que quand on est à ce point-là, vaut mieux quitter l'église. Sincèrement, vaut mieux quitter l'Église, parce que je donne pas cher de la peau de celui ou celle qui a ce genre de propos. On peut s'apercevoir que souvent, il y a certains qui ont du mal à redresser quelqu'un avec douceur. Parce que normalement, lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu en nous, qu'est-ce qui ressort de notre cœur ? De l'amour, de la compassion, de la douceur. Si vous préférez, c'est l'inverse de ce que nous étions avant. Il n'y a plus de jugement. Pourquoi ? Parce qu'on sait que c'est la grâce de Dieu qui nous a sortis de là où nous étions. Votre cœur avant, c'était tout pour moi. Vous voyez ? Tout pour moi. Je vous dirais, comme dit le monde, tout pour ma gueule. En Christ, c'est l'inverse. Vos mains s'ouvrent vers celui ou celle qui est devant vous. C'est-à-dire, vous devenez la serpillière de la personne qui est devant vous. Il doit être en capacité de s'essuyer les pieds sur vous. Il vous insulte. Et la plupart du temps, ça décontenance les gens. Quand vous êtes là sans regimber, les gens ne savent plus quoi dire. C'est quelqu'un qui est en colère, si vous baissez le ton, tout doucement, vous allez voir que la colère va baisser. Alors que Jésus nous a appris justement à être le ton le plus bas. Le plus bas. Et lorsqu'on est dans cette position-là, qu'est-ce qu'on fait ? On donne l'amour qu'on a reçu de Jésus-Christ. Tout simplement. Et quand je parlais des gens qui ont du mal à reprendre quelqu'un avec douceur, Paul en parle. Il y a deux passages. Enfin, Jean, pardon. Il y a deux passages. Et vous allez voir comme c'est flagrant à quel point on peut être stupide. En Jean chapitre 8, versets 3 à 5. Jean chapitre 8, versets 3 à 5. « Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent « Jésus, maître !» Ils ont donné tous les titres. « Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ?» La première chose qu'on peut remarquer dans ce passage, c'est l'intransigeance des scribes et des pharisiens. C'est marqué, on fait. Ils ne cherchent même pas à comprendre. Il fallait que cette femme soit lapidée selon la loi de Moïse. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus ? Il a levé la tête, il n'a rien dit. Il l'avait déjà pardonné. Il l'avait déjà pardonné. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et tranquillement, il s'est mis à écrire dans le sable. Qu'aurions-nous fait à la place de Jésus ? Oui, vous avez raison, il faut la tuer. Est-ce qu'on aurait dit ça ? Le deuxième passage, c'est en Actes 21, versets 27 à 29. Là, vous allez voir le jugement. Ça va très vite. Sur la fin des sept jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant « Homme israélite, au secours ! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville, et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Ils n'ont rien vu, mais ils veulent lapider aussi Paul. Des Lucky Luke du jugement. Ils n'ont rien vu. Ils supposent. Pardon. Ils supposent que Paul a introduit un profane dans le temple. Merci pour l'eau. On a à prendre garde de ce genre de jugement. rapide. Merci.
Ça va aller. Ouais.
On a à prendre garde à ce genre de jugements qui sont très rapides, erronés, qui condamnent et qui condamnent souvent faussement. Pourquoi ? Parce qu'on analyse la situation sans amour. On condamne une personne sans la connaître. Alors bien sûr, vous allez me dire, il faut faire attention, il n'y a pas. C'est pas les novices dans la foi qui peuvent reprendre quelqu'un. On ne va pas demander à un jeune baptisé d'aller vers un ancien chrétien et puis commencer à reprendre ou autre chose, enfin reprendre entre guillemets. Aller aider une personne. Il n'y a que les gens vraiment confirmés, des chrétiens ayant l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'en Galates 5, 16, on dit « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Lorsqu'on marche dans cette position, tout ce qui est humain n'agit pas. Nos jugements, nos critiques, tout ce qui fait partie de notre ancienne vie sont coupés. Et il n'y a qu'un chrétien qui est dans cette position-là qui peut agir de cette façon. Si on n'est pas dans cette position-là, automatiquement, il va y avoir du jugement. Automatiquement, il y aura une condamnation. Mais quelqu'un qui a réellement l'Esprit de Dieu, il va porter la personne sur le trône de la grâce. Au lieu de condamner. Et comme je disais tout à l'heure, ça sera toujours accompli avec douceur, avec amour, avec attention, avec empathie. Tout le caractère de Jésus-Christ. Et ce que je vous dis, faites très attention, parce qu'on le verra avec Jacques, et Paul le dit souvent d'ailleurs, avec la langue on tue quelqu'un. Il y a des gens qui n'ont pas fait attention, ils ont fait une simple réflexion. Il y a une personne qui était dans un mauvais état spirituel, ça l'a tué. Il y a des gens qui ont quitté des églises rien que pour une réflexion. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Et il faut faire très attention à ce qu'on juge. Parce qu'il faut garder en tête que nul ne peut être certain de ne jamais tomber dans le péché. On peut tous chuter. Et deuxième chose qui est importante, on peut également tomber dans ce qu'on juge. C'est-à-dire des années après, ce que vous avez jugé à un moment donné, vous allez faire exactement la même chose. Et ça, c'est grave. Parce qu'en 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 12, on a cet avertissement. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 12, « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Pourquoi on a des chrétiens qui chutent ? Parce qu'à un moment donné dans leur vie, au lieu d'aimer, au lieu d'être animés de l'Esprit de Jésus-Christ, ils ont condamné, ils ont critiqué, ils ont jugé. Et en fait, compte, quelques années après, ils sont tombés dans les choses qu'ils ont jugées. Nous qui sommes debout aujourd'hui, et on l'a entendu ce matin, gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ. Parce que si on se détourne, je vous garantis, on l'a entendu également ce matin, que le malin viendra tout de suite, mais tout de suite pour vous faire tomber et pour me faire tomber aussi. En fait, compte ce verset, Paul est en train d'expliquer aux Corinthiens, « Oh là, faites très attention, ne jouez pas avec la sécurité » que vous avez en Jésus-Christ. Parce qu'ils pensaient, les Corinthiens, que, voilà, comme ils sont en Christ, ils ont la liberté de pécher. Paul les un peu les remet en place en leur disant non, vous pouvez tomber comme vous étiez tombé il y a quelques années. Faites très attention. Et c'est souvent le cas, malheureusement, personne n'est à l'abri d'une chute. Personne. C'est pour ça que il faut toujours avoir le baudrier avec la corde. Vous savez, quand vous travaillez sur des grandes hauteurs, il y a des gens au bout de 35 ans, ben, ils ont toujours la ceinture avec le baudrier et la corde. Pourtant, ils pourraient dire, mais moi j'ai l'habitude maintenant, il n'y a aucun souci. Et non, ils s'attachent encore parce qu'ils savent très bien qu'ils pourraient chuter. Nous, notre corde, c'est Jésus-Christ. Si on s'écarte de Jésus-Christ, je peux vous le garantir qu'on va chuter. Le deuxième point, c'est servir le chrétien qui est chargé, c'est-à-dire tenter, éprouver. En Galates 6, 2, 5, je l'ai lu déjà tout à l'heure, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ, l'amour. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Celui qui est vraiment au service de Dieu porte assistance à ceux qui sont chargés et éprouvés. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas un frère ou une sœur dans les combats, seuls, des combats spirituels, dans tout ce qui l'emmène vers le bas. On va prier avec lui, on va parler avec lui. Et c'est important parce que on peut voir des frères et des sœurs sombrer comme ça. Moi, je suis bien. Spirituellement, ça va très bien. Bon, j'ai vu mon frère ou ma sœur, c'est parce qu'il lit pas assez sa Bible ou il prie pas assez. Est-ce que vous pensez réellement que c'est lié à ça? Il y a des gens qui se battent avec des péchés depuis des années. Si on est là à les juger, à les critiquer, à sans arrêt leur mettre la main sur la tête, on finit par quoi? On finit par les noyer. Notre main, elle doit être sous leurs pieds et on doit les lever. C'est ça le rôle du serviteur de Dieu. Et Paul connaissait très bien les chrétiens et surtout ceux qui étaient, ils se sentaient au-dessus du lot. Il dit, si quelqu'un pense être quelque chose, qu'il ne soit rien, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. C'est-à-dire, il y a des gens qui pensent être bien spirituels, alors que devant le Seigneur, ils ne sont pas grand-chose. Enfin, c'est le Seigneur qui le sait, nous on ne le sait pas. En fin de compte, chacun d'entre nous, on doit s'examiner nous-mêmes, comme avant de prendre la Sainte-Cène. Et on doit ainsi porter nos propres charges, c'est-à-dire nos propres tentations, tout ce qui vient taper à la porte tous les jours. Et on verra qu'on n'est pas si bien que ça, en fin de compte. Qu'on n'est pas au-dessus du lot, comme on croit. Parce que c'est de ça qu'il est question. On croit qu'on est au-dessus du lot, et pourtant, quand on fait le point de notre vie, on se dit, mais il y a ça qui ne va pas dans ma vie. Il y a ça qui ne va pas dans ma vie. Mais tout compte fait, je ne suis pas mieux que mon frère ou ma sœur que je juge ou critique. On a souvent affaire à des personnes qui ont du mal à comprendre pourquoi le péché peut être dans un frère ou dans une sœur. Parce que malheureusement, ils se sentent plus spirituels. Ça, c'est le danger. C'est le danger. Vous savez que moi, qui suis ancien ici, je me sens absolument pas plus élevé et certainement pas plus élevé que vous. Je suis un être humain. Point final. Qui passera comme vous, je le dirai tout à l'heure, devant le tribunal de Christ. Vous pouvez être le plus grand des spirituels, vous pouvez avoir la science infuse, vous pouvez avoir l'esprit de Dieu, dites-vous toujours « je suis un être humain ». Pourquoi ? Parce que, et ça c'est important, ne jamais oublier de quel bout Dieu nous a sortis. De quel bout Dieu vous a sortis ? Parce que on peut juger son frère ou sa sœur, mais des fois on oublie que ce qu'on est en train de juger, on l'a fait il y a quelques années. Vous savez, quand je fais le point de ma vie, je me dis, mais ma boue était beaucoup plus nauséabonde que la personne que j'ai devant moi. Mais je me dis qu'en fin de compte, c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir aider un frère ou une sœur. C'est pas dire, j'ai une position qui est élevée, donc je suis quelqu'un d'exceptionnel, je suis en capacité de te dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Si on commence à réagir comme ça, on va se prendre un mur. Parce que Dieu va nous montrer où on en est encore. Mais si je me dis, si j'en suis là aujourd'hui, c'est là par la grâce de Dieu. Et je veux te faire connaître cette grâce. Je veux que tu entres dans le plan de Dieu. C'est ça le rôle du serviteur. En fin de compte, vous avez compris que Galates 6, ici, on parle des vrais combats spirituels, des véritables, qui sont écrasants, qui sont oppressants, celui de la tentation, de l'échec sur le plan spirituel, parce qu'on n'y arrive pas. Et si on ne trouve pas un frère ou une sœur qui est en capacité de nous aider, de nous comprendre, de prier avec nous, on est mort. Et ce n'est pas le rôle des anciens, ce n'est pas le rôle d'un pasteur, c'est le rôle de chacun d'entre vous. On est l'édifice, l'église. Chacun de nous est une pierre dans l'édifice. On a chacun à être lié par le même ciment, l'Esprit de Dieu. Donc si on voit une brique qui commence un peu à s'enlever, vous savez, le ciment qui ne colle plus, qu'est-ce qu'on fait ? On va la maintenir pour qu'elle reste, pour qu'elle soutienne en même temps que nous l'édifice. Et on a chacun, par exemple, même si on ne se sent pas capable d'aller voir son frère ou sa sœur, de prier. Quand on est au courant d'une situation, c'est pas je vais commencer à en parler à Emmanuel, je vais commencer à parler à Marie-Jeanne, je vais en commencer à parler à Alain, à Catherine. Non. Je vais dans ma chambre, je me mets à genoux devant le Seigneur et j'en parle au Seigneur. V'là le rôle du serviteur de Dieu. Et on le reconnaît dans l'amour, en fin de compte, qu'on donne aux uns et aux autres. En Galates 5, 14, il est dit « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, la même que Marc a donnée il y a une semaine. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » En Jean 13, 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. » Aimez-vous les uns les autres. En fin de compte, il cite Lévitique, chapitre 19, verset 18, et il déclare que toute la loi se résume en une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et en fin de compte, Jésus a affirmé ces vérités au docteur de la loi en Matthieu 22, 37, 39. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, quand Paul voulait aussi démontrer que l'accomplissement de l'amour chrétien est accompli dans la loi de Christ. Et il a développé ce point en Romains, chapitre 13, versets 8 à 10. Il l'a développé d'une façon particulière. ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. En fin de compte, ça a amené Paul, je ne sais pas pourquoi, à penser aux dettes des croyants les uns envers les autres. Littéralement, il disait, ne continuez pas à devoir quoi que ce soit à quiconque. Il fallait être clean, net. Mais plutôt, il fallait s'aimer les uns les autres. En fin de compte, Paul veut souligner l'obligation du chrétien de faire preuve d'amour divin dans toutes ses relations interpersonnelles. Donc vous voyez que le mot amour pour Paul, pour tous ceux qui ont écrit, c'est le fondement de la Bible. Puisque Jésus-Christ est mort pour nous par amour. En 1 Corinthiens 16, 14, il est dit que tout ce que vous faites se fasse avec charité, avec amour. On en arrive à la conclusion. Servir, en fin de compte, c'est quoi? C'est aimer les personnes plus que nous, quoi qu'il puisse arriver, quoi qu'il puisse nous être dévoilé. C'est-à-dire qu'on peut apprendre des choses sur quelqu'un des années après, notre amour ne changera pas. Parce qu'on a vite fait de jeter l'eau du bain et le bébé avec. Hein. C'est incroyable, j'ai appris ça, c'est inadmissible, c'est ceci, c'est cela, parce qu'on a oublié à un moment donné que on est capable d'en faire autant. Il est facile de juger, c'est facile de condamner. Mais ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de relever quelqu'un qui est dans une position de péché. Parce que ça demande d'aller au-delà de nos jugements. Et vous savez qu'il y a des gens qui en sont incapables. Ils sont incapables. Parce que pour eux, c'est trop difficile. Ils vont être salis, ils vont être ceci, ils vont être cela. Mais non. Mais non. Si Jésus-Christ avait fait ça, il y a beaucoup de gens qui seraient encore sous les démons. Et il n'aurait pas annoncé l'évangile comme il l'a fait. Combien ont condamné un frère, ont condamné une sœur, ont même condamné une église. En oubliant que, et ça c'est important, on va avoir des comptes à rendre pour chacune de nos paroles et chacun des faits qu'on aura fait. En Hébreux chapitre 4, verset 13, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. On va tous comparaître devant le tribunal de Christ et on a tous à rendre compte de la vie qu'on aura menée, des paroles qu'on aura prononcées et chacun de nos agissements. Là-dessus, je vous donne Romains 14, 10, 12. Mais toi, pourquoi tu juges ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant toi. Si tu te prends pour la montagne, tu vas fléchir le genou devant le Seigneur. Si tu te prends pour un Dieu, tu vas fléchir le genou devant le Seigneur. Et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Alors, il faut faire attention parce que si notre vie est caractérisée par ces choses, on peut perdre sa récompense. Je ne dis pas perdre son salut, perdre sa récompense. C'est-à-dire que Vous savez, dans une course, il y a plusieurs personnes qui courent. Il y en a un seul qui va gagner le laurier. Mais les autres, ce n'est pas pour ça qu'ils n'ont pas couru. Mais on peut perdre sa récompense. En 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 11 à 15, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu prouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Alors l'or, l'argent, les pierres précieuses se rapportent ici au caractère durable du travail du constructeur. Le bois, le foin, le chaume, c'est-à-dire suggère un travail sans valeur, temporaire. L'or, l'argent, les pierres précieuses, trois matériaux coûteux, suggèrent ici la saine doctrine que le constructeur, c'est-à-dire Dieu, incorpore dans la vie des gens. Tandis que les trois sans valeur représentent les fausses doctrines ou les faux témoignages. En quelque sorte, les trois premiers, l'or, l'argent, les pierres précieuses, représentent les vrais chrétiens qui, par leur vie remplie du Seigneur Jésus-Christ, ont bâti pour sa gloire et pas pour leur gloire. Tandis que les autres représentent des chrétiens religieux, non régénérés, présents dans l'Église sans glorifier le nom de Jésus-Christ de façon marquée. C'est-à-dire que leur vie est plate, complètement plate, aucun engagement. Nous avons chacun été sauvés par la foi en Jésus-Christ. Il est venu nous chercher, c'est lui qui est venu, ce n'est pas nous qui sommes allés vers lui. Si vous croyez ça aujourd'hui, vous êtes cuit. C'est lui qui est venu nous chercher. Alors qu'on était en train de se débattre dans notre boue nauséabonde. Aujourd'hui, si on est debout, c'est par sa grâce. Si tu ne tues pas aujourd'hui, si tu ne voles pas, si tu ne fais pas les pires choses qu'on entend dans le monde, c'est pas que tu es meilleur que l'autre. Mais c'est parce que tu as été saisi par la grâce de Dieu. C'est, en fait, quand on doit apprendre à s'effacer, c'est important. Apprendre à s'effacer pour relever, être en capacité de relever son frère ou sa sœur, parce qu'il fait également partie de l'épouse de Christ. Vous savez, vous avez beau être révolté parce que quelqu'un abandonne un chien dans la rue. Mais si vous abandonnez votre frère, votre sœur, votre famille, vos amis qui sont dans la panade, vous n'êtes pas mieux que celui qui abandonne le chien. En fait, compte, c'est le plus grand preuve d'amour qu'on puisse donner à quelqu'un. Servir sans vouloir être servi et surtout ne pas s'appuyer sur ce qu'on a déjà fait. Vous écoutez les gens? Ah, je me rappelle, en 1995, Dieu a fait ça dans ma vie. Ben, on est en 2025. Qu'est-ce qu'il a fait depuis? On rit, mais c'est triste. Mais c'est triste. Et vous avez des gens qui vont s'appuyer sur juste cette chose-là. Et malheureusement, face au sacrifice de Jésus-Christ, ça ne représente absolument rien du tout. Nous avons en Jésus-Christ un modèle parfait. Son amour est infini, inconditionnel, transformateur. Il dépasse toute compréhension humaine. Il touche le cœur de chacun, peu importe nos faiblesses ou nos erreurs. Dans sa compassion, Jésus nous invite à nous rapprocher de lui, sans peur, car son amour guérit, restaure et donne la paix. Il est un refuge sûr dans les tempêtes de la vie, une lumière qui éclaire nos chemins obscurs. On doit méditer chacun sur l'amour que Jésus-Christ, dont Jésus-Christ a fait preuve. Un amour qui ne juge pas, qui pardonne sans compter, qui relève et qui se donne entièrement pour notre salut. Que cette vérité profonde nous inspire à aimer à notre tour, avec la même générosité, avec la même grâce, sans jugement, pour être capable de relever un frère, une sœur, quel que soit le péché qu'il a commis. L'important, ce n'est pas être indigné, mais l'important, c'est de porter comme Christ nous a porté. Que l'amour de Jésus-Christ soit notre force, notre guide, nous portant chaque jour vers plus de bonté, plus de patience, plus de foi envers nos frères et sœurs, nos familles, nos amis et nos voisins. Que Christ soit vraiment l'objet de nos délices. Et ainsi nous serons en capacité de nous retrouver devant les pires situations dans un calme profond, avec un amour dépassant toutes les frontières. Au nom de Jésus-Christ. Amen.